Bonsoir, bienvenue sur Jean Rage. Je suis avec Suzanne ce soir.
Bonsoir.
Et nous avons un invité spécial, René Ornstein, donc, qui est une personne qui a étudié avec Suzanne, qui est militant ou militante, qui nous parlera ce soir d'un spectacle qu'il ou elle a mis en place qui s'appelle Why Don't You Bend Your Gender? Comment il ou elle considère ce spectacle comme une sorte de moyens de transmission ou d'application de certaines théories queer comme la théorie de Judith Butler sur laquelle Suzanne et André reviendront plus tard. Et comment finalement ce spectacle se présente comme une invitation à la performance. Dans cette interview, ils aborderont plusieurs points, notamment le travestissement. Travestissement comme pratique donc de performance qui permet aussi l'éclatement du cadre spatio-temporel de la performance et commence à bouleverser l'activité privée ou justement comment il y a ce problème se pose de séparation entre tout ce qui a à voir avec tout ce qui a trait à l'activité privée et l'activité publique quand on parle de travestissement finalement. Et puis, ils ou elles aborderont d'autres points comme l'enjeu de la nomination et justement ce jeu de pronoms. Et voilà, je vous laisse donc avec Suzanne dans quelques instants. Premièrement, nous allons vous présenter la lecture de René de son spectacle, hein, donc un extrait de son spectacle qu'il nous lit tout de suite. À plus tard.
Maidies and Lentilgem. Divas and drags, girls and guys. This song is addressed to your families, your friends, your teachers and students, your employers and employees out there in normato-heterativity. With this song, I ask them a question that is opposite to what may be in their minds when they see someone like us. They might think, why are you so queer? Do you have to be? Now, let me be their Eve, offering to them the sweet, seductive apple of queerness. Let us all be a choir of Eves asking them, en fait, why don't you bend your gender? En chantant. Okay.
On est de retour avec René. Juste avant de commencer l'entretien, je vais présenter un petit peu l'histoire du groupe qui a son histoire, sa jeunesse, etc. Qui en gros est un groupe féministe queer et l'histoire également du personnage autour duquel s'est construit le groupe. Ce personnage s'appelle René la Magnifique. René la Magnifique pose les questions de gender bending, de pliement de genre. On l'abordera avec René tout à l'heure. Et donc pour commencer tout de suite, l'histoire du groupe, quels événements ont amené René et d'autres amis et ses amis à réfléchir autour des questions du travestissement féminin, du mélange des genres et du gender bending. Ça a commencé d'abord avec une exposition à l'université qui portait autour de genre et la sexualité et avec un groupe d'amis a fait une vidéo autour du travestissement féminin. Une copine de René a conçu plutôt la dramaturgie pendant que René incarnait le personnage. Ensuite, il y a d'autres événements qui ont construit le personnage René la Magnifique. Il y a eu par la suite une conférence à Berlin qui portait sur le développement durable. Et René, tu m'avais dit que tu trouvais que tu avais été assez marqué par le conservatisme ambiant de l'assistance et sur le fait aussi que c'était très genré. Et en fait, lors de cette conférence, il a été proposé aux jeunes de proposer un projet pour donner leur vision en 2050 en fait. Quel serait leur souhait pour 2050? Et ce que tu as proposé, c'est
de ne pas être regardé, de ne pas être
apparaître comme quelque chose d'anormal ou extraordinaire, mais d'être assez normal pour qu'on ne me regarde pas.
Ce que tu as proposé donc, via ce projet, c'était un ensemble de 5 photos qui montraient 5 expressions de genre, qui en fait montraient un panel assez large de genre, qui allait de la masculinité la plus normative à la féminité, à, jusqu'à une certaine forme de féminité. Voilà, donc là, ça a été le deuxième événement assez important. Ensuite, d'autres événements ont contribué à construire le groupe, à élaborer la genèse du groupe. Il y a eu un spectacle à Cologne auquel une de tes amies t'a proposé de participer, une copine queer féministe. Et vous avez proposé un texte pour le spectacle qui s'intitule « Why don't you bend your gender ?» donc le fameux texte que l'on a entendu tout à l'heure et dont on parlera par la suite. Bien sûr, je précise juste avant qu'on commence l'entretien, une chose que tu avais estimée importante que je précise, c'était que le groupe, bien que tu sois seul ici, c'est que le groupe s'est pensé à partir de plusieurs subjectivité et qu'il a été le fruit d'une collaboration, que c'était un projet très participatif et donc que tu n'es pas du tout la seule personne à être au centre du projet. Voilà, je vais commencer la première question en te demandant si est-ce que je vais commencer en te demandant si le groupe s'est pensé, puisque c'est un groupe queer féministe, est-ce qu'il s'est pensé à partir d'identité? Est-ce qu'il s'est pensé en fonction d'identité minoritaire? Est-ce que cette question te paraît pertinente pour commencer?
Bye.
Je vais vous passer tout de suite une chanson Beautiful Boys de Coco Rosie et ensuite on passe aux commentaires sur le spectacle.
No more, no more, beautiful boys. Beautiful boys.
But illegitimately to a heart most likely he became an orphan. Oh, what a lovely orphan. He was sent to the reformatory. 10 years old was his first glory. Got caught stealing from a nun. Now his love story had begun. Executed. The pure romance was undisputed. Angelic hoodlums and holy ones. Angelic hoodlums and holy tattoos of ships and tattoos of tears. All those beautiful boys, pimps and queens and
criminal queers, all those beautiful boys, tattoos of ships and tattoos of tears.
Why don't you bend your gender? Ça c'est le refrain qui est répété plusieurs fois. Et après, le premier vers, c'est ça?
Le premier vers... attends, le premier...
Stanza, c'est un stanza en anglais.
Le premier vers, oui.
Oui, le premier vers. C'est ça. Oui, voilà. Donc, le refrain est « Why don't you bend your gender ?» répété plusieurs fois. Et... le premier vers c'est Why don't you dare to change your hair? Why don't you try to change your style? Why not be a little different tonight? Why not change appearance tonight? Why don't you bend your gender? Le refrain. Deuxième vers. Une improvisation pianistique aussi. Deuxième vers. Why not be a little bi? Why not be a little trans? Why not bend your gender tonight? Why not be more of a dyke? Why not be more of a queen? Why not mend your bender tonight? Leave behind you the everyday grey of normato-heterativity. Ooh, transcend the norms of the biosociological. And why don't you bend your gender? Voilà.
Ok.
Donc, tu peux remarquer que je joue avec le discours queer. J'utilise les mots heteronormativity,
oui.
Mais je le transforme en normato-heterotivity.
Oui, normato-heterotivity.
Oui.
So, c'est quoi la... Pourquoi tu rajoutes normato avant?
Non, je fais un jeu avec
c'est
les mots.
C'est pour musicalement
Non, c'est pas musicalement. C'est, j'applique l'idée de plier...
D'accord.
Dans mon propre discours. Tu as remarqué qu'au début,
oui.
Je l'ai fait aussi. Dans le discours, je dis Maidies and Lentil Jam.
Girls and Guys.
Exactement. Donc,
The Queer et la langue.
Oui, c'est ça. Mais je le fais plutôt pour un effet comique, pour montrer qu'il y a une langue qui décrit ces réalités-là, qui les pense, qui les théorise.
D'accord.
Mais aussi pour qu'on puisse s'approprier de cette langue dans une façon pas trop sérieuse, pour ne pas prendre trop au sérieux ce discours-là, qui est un discours scientifique, qui peut aussi être un registre de domination, de pouvoir.
Mm-hmm.
Et donc, je veux vraiment inviter et inciter les gens à plier leur genre et à... s'approprier de ces notions et cette corpus théorique et pour être un peu plus à l'aise parce que je crois que ces mots comme heteronormativity ou hétéronormativité sont impressionnants et créent une distance théorique et scientifique. C'est un aspect de la science.
Oui, tu veux enlever l'aspect jargonnant en fait de ce terme,
oui.
Et l'intégrer à un langage
plus familier ou plus privé ou plus
intime en
oui,
fait un
intime
peu
et amical. Donc j'essaie
amical.
De de créer une communauté de des amis qui nous sont à cette qui nous sommes à cette fête.
D'accord.
Pour mais aussi des étrangers que je ne connais pas qui puissent être des hétéros normaux qui n'ont pas réfléchi là-dessus, les inviter à plier leur genre, juste le goûter, l'essayer. Donc c'est pas... je crois qu'un peu il y a une norme dans les études queer et le mouvement queer et les identités queer de détruire le genre. Et je crois que ça fait peur à beaucoup de gens.
Ouais.
Et j'essaye de prendre un peu de cette peur et de enlever un peu de cette peur de ces suggestions de plier le genre. Donc je fais ce que le mouvement queer avance comme idée politique ou comme stratégie politique. Je suggère de plier le genre, mais j'essaie de le faire dans une façon moins distante, moins arrogante peut-être,
ouais,
d'un mouvement scientifique difficile, ouais, à comprendre.
Ouais.
Et
en rendant ton discours, ta performance même accessible à un public queer friendly pour,
oui,
le coup, et pas seulement queer.
Oui,
en fait.
Exactement.
D'accord.
Ou un public intéressé.
Un public intéressé.
Qui n'est pas trop défini ou qui n'a pas trop réfléchi là-dessus.
Ouais.
Et donc je crois que c'est possible aussi de chanter cette chanson dans un ensemble public qui n'est pas queer, mais je n'ai pas essayé encore. Et mais je vois qu'il y a un dynamisme que moi, autant que queen que je suis, reine de scène très dans une belle robe très maquillée, très noble et digne et élégante, que je suis dans une position d'autorité. Et je suis la domination sensuelle, je suis une dominatrice peut-être aussi. Et ça, c'est ce que ma copine a essayé de détruire ou de travailler dans le discours sur scène, en créant un contre-discours avec notre copine Léonie. Donc Anna et Léonie jouent sur scène le public, la réaction du public. Donc elles sont chanteuses en arrière-plan pendant notre chanson, mais après elles disent: ah voilà, on va essayer de plier notre genre maintenant. Donc qu'est-ce qu'on fait? Ah, on a des sacs sur scène avec plusieurs vêtements, on cherche des vêtements et on essaye.
Ok.
Et donc elles essayent de se travestir ou de plier leur genre, et elles me montrent et moi je réponds non. Non, vous n'avez pas compris ça, c'est pas plier son genre. Essayez encore une fois. Donc il y a ce logique de répétition de plier le genre.
Est-ce qu'il y a une logique performative là-dedans?
Oui, bien, ouais, sûr. Donc, et pendant qu'elle le fasse, elle montre ou sans jouer aussi des chansons qui sont liées au genre, par exemple Barbie Girl, I'm a Barbie Girl in a Barbie World. Ça montre aussi l'aspect genré de la féminité normative. Et donc elle traverse un espace de très genré normativement à une façon plus queer ou plus trans ou un esthétique plus au milieu ou androgyne. La logique de répétition,
ouais,
qui est toujours répondue par moi-même en tant que reine, en réaction que vous avez échoué à vous à plier votre genre,
oui,
montre que il y a une façon de logique totale dans ce valeur de plier le genre.
Est-ce que tu avais à ce moment du spectacle, tu avais déjà lu Judith Butler, et est-ce que cette question du genre comme performatif et qui en fait en gros notre genre masculin féminin et lui-même produit en fait par un ensemble de pratiques de répétition qui produisent aussi bien les caractéristiques hormonales sexuelles enfin relatives au sexe du genre que le genre à savoir ce qu'on appelle féminin, masculin. Et donc du coup, d'où la critique de la binarité, puisque forcément, le fait que le masculin et le féminin soient si opposés, c'est aussi lié à cette répétition-là. Je contextualise juste un petit peu peut-être le cadre théorique, même si c'est peut-être pas exactement, je
Oui.
synthétise pas bien,
Non,
mais
c'est bien.
est-ce qu'il y avait ce discours-là derrière, enfin, est-ce qu'il y avait cette
Oui.
lecture-là derrière, en
Oui,
fait?
oui.
D'accord.
Je crois que notre performance est un commentaire sur cette lecture. Donc, je ne dis pas que je suis expert sur Judith Butler et je trouve très difficile à comprendre ses écrits. Mais Judith Butler est la pensée queer et la chose la plus connue en Allemagne, en fait, d'un féminisme queer. Donc,
D'accord.
on confond aussi un peu le queer et le féministe. Le féminisme, en lisant Judith Butler comme une féministe, je crois.
Ce qui n'est pas du tout le cas ici pour le coup, enfin en France.
Oui, je sais,
Ouais.
j'en ai conscience.
Donc on peut peut-être en parler après aussi,
Oui,
je trouverais ça
oui.
intéressant.
Donc, moi, j'ai eu conscience de ça. Moi, je vois le genre comme une chose construite. De répétition et de performance. Mais je fais un commentaire sur la norme de plier son genre dans un milieu queer. Donc je crois que l'avant-garde de genre est queer, qui revendique de plier son genre, et moi-même, en tant que militant, je le revendique. Et je le fais moi-même. Donc je plie mon genre, je me travestis.
Donc c'est une pratique que tu revendiques plus qu'une identité en fait.
Oui, c'est ça.
Donc d'accord. Parce que en fait, je voudrais te parler d'un artiste qui. Je voulais en fait te poser la question en référence à cet artiste. Il s'est représenté notamment à Lille. Il s'appelle Steven Cohen et en fait, il se définit comme c'est un performeur. Il fait des performances politiques. Enfin, artistique bien sûr, mais il y a toujours une dimension politique et son corps est vraiment au centre performance, au centre de sa performance et il se définit comme juif blanc homosexuel sud-africain et en fait enfin, la réflexion qu'il mène, le travail qu'il mène joue sur cette identité d'où il part, cette identité qui est à la fois celle de l'oppresseur et de l'oppressé. Et quand tu m'as parlé du fait que tu voulais rendre visible cette domination que parfois que tu pouvais produire également toi, est-ce que cette réflexion autour de la domination ou de l'oppression, est-ce qu'elle suit est-ce qu'elle part de ton identité ou est-ce qu'elle part d'une configuration du spectacle, de ta relation, est-ce qu'elle part de la relation que tu as avec les personnes autour ou est-ce qu'elle part de quelque chose comme je me situe moi en tant que. Est-ce que tu comprends un peu la question?
Non,
Non.
mais j'ai des réponses pour vous.
Vas-y.
J'ai une réflexion, une analyse politique de notre société. Je trouve que il y a un régime de genre très fort, et je trouve que ce régime produit des effets non désirables. Et je cherche un moyen de battre ces effets ou de battre ce régime, contre ce régime. Et je trouve que plier son genre ou se travestir est une façon de mettre en question et de rendre visibles ces normes. Donc de battre ces effets non désirables, même si que je sais bien que je me mets en danger quand je me travestis. Mais je trouve que ça, c'est une injection au discours que je fais. Donc c'est une pratique
Ouais.
de résistance,
ouais.
mais je sais que cette pratique-là, elle-même, a une logique totale et dominatrice. Et je veux le rendre aussi visible avec notre performance. Ou si c'était ça que j'ai discuté avec ma copine Anna, parce que mon rêve était être cette reine qui revendique le plier son genre, mais on a réalisé que cette reine aussi, elle n'est pas la réponse finale. Elle est un moyen de militantisme, mais elle est aussi oppressive. Et je voulais rendre visible cette oppression, ou je voulais articuler cette logique pour les spectateurs aussi, pour montrer que, bien évidemment, pour battre ce régime de genre, de normativité, se travestir, c'est une bonne idée. Mais j'ai conscience, et peut-être vous avez conscience aussi, que cette logique n'est pas infinie et ne devrait pas être appliquée à l'infini.
D'accord.
Est-ce que ça répond à ta question ?
Ouais. Ensuite, je vous balance la chanson Venus as a Boy de Björk et on revient pour la suite de l'interview, de l'entretien.
Exciting sense.
Et tu me parlais du coup des risques que tu prenais en te travestissant. Et est-ce que ces risques, premièrement, est-ce que tu en avais conscience au départ? Et deuxième question, est-ce que le travestissement comme pratique redéfinit la performance? Je vais m'expliquer. En fait, le fait que le fait que tu te travestisses, est-ce que, en fait, ça dépasse les cadres, l'espace-temps prédéfini d'une performance avec ça va durer 20 minutes, etc. Et toi, tu peux décider de travestir hors de ce cadre d'espace-temps prédéfini, qui est celui d'une performance artistique qui dure de tel temps à tel temps. Est-ce que tu vois ce que je veux dire?
Donc, tu parles de la vie quotidienne.
Du quotidien, en fait.
Et la question est...
La question est-ce que tu penses que ça donne un autre sens à la performance, au terme de performance, du coup?
Si je me travestis dans ma vie quotidienne? Je crois que se travestir dans sa vie quotidienne souligne la revendication que je mets en avance à travers cette performance. Mais je voudrais bien séparer un message politique artistique et ma vie privée.
Oui.
Donc, je crois que le message est assez fort en soi. Et il ne faut pas savoir si je me travestis dans ma vie privée ou pas pour mieux comprendre la
Pour
performance.
mieux comprendre la performance. Oui, je vois ce que tu veux dire. Ok. Oui, ok, d'accord. Donc tu sépares l'espace de la vie quotidienne, tout simplement, de la scène artistique, en fait,
Oui,
de la
mais
scène politique
je le
artistique.
sépare théoriquement. Je dirais que cette pièce est un peu le manifesto de notre groupe à cette époque. Peut-être ça change. C'est en train de changer maintenant, j'en sais rien. Il faut en discuter avec le groupe. Mais à l'époque, c'était un peu le manifesto. Et je le fais moi-même dans ma vie privée, de me travestir comme moyen de militantisme politique au quotidien. Mais je préférais de le voir séparément.
D'accord.
Donc on peut en parler, on peut en discuter, mais c'est quelque chose de séparé.
D'accord.
Parce que je suis en contact avec les gens qui sont les spectateurs dans un contexte artistique de soirée de fête. Et je ne reste plus au contact avec ces gens-là après. Donc, c'est pas trop lié avec ma vie quotidienne. Parce qu'on est séparés par rapport au contact. Mais bien sûr que le message politique ou la revendication politique a un effet sur moi-même et sur mes propres actions,
Oui.
qui je regarde comme étant politique. Et voilà, je crois que me travestir dans ma vie privée est une conséquence que je vois en se découlant de cette performance artistique qui suit cette performance. Mais c'est une conséquence personnelle. Tu vois?
Oui, je vois ce que tu veux dire. Oui, ça a suivi finalement cette expérience artistique, mais ça a bouleversé ou changé ton intimité, ton rapport privé en fait à ta vie, etc. C'est ça que tu veux dire? Pas véritablement?
On pourrait l'expliquer autrement. Je dirais que moi personnellement, j'ai eu le vœu de me travestir depuis longtemps. Je l'ai supprimé parce que c'est pas correct. Il faut pas le faire. On n'est pas un vrai homme si on fait ça.
et je voudrais être un vrai homme, surtout quand j'étais adolescent. Donc je revendiquais de la légitimité pour moi. Et je savais que ça détruit toute la légitimité publique que j'aurais pu avoir en étant adolescent. Et le monde artistique, donc je t'ai dit que la première fois que je me travestissais, c'était pour le carnaval en Autriche, une situation de l'exception. Et après, c'était pour des buts artistiques. Et les deux situations me donnent de légitimité d'expérimenter avec le travestissement. Et ça, c'est un début, un premier pas, injecté avec légitimité, d'éprouver comment c'est de se travestir. Et j'ai reçu beaucoup des remarques positives de mon environnement. Et ça m'a soutenu et j'ai vu que c'est vivable. Je ne suis pas annihilé comme être si je me travestis. Donc, ma légitimité publique est questionnée par des étrangers, mais mon réseau privé ou mon réseau émotionnel me soutient. Donc, je reste encore un être.
Oui.
Un être justifié qui peut prendre la parole publique. Et ça m'a assez soutenu pour commencer de me travestir dans ma vie quotidienne. Mais c'est pas facile, c'est pas comme je le faisais tout le temps dans n'importe quelle situation. J'ai très bien conscience qu'il y a des lieux qui sont plus dangereux que des autres, donc je choisis très bien et très bien réfléchi en avance quand et où je me travestis pour ne pas mourir.
Oui, bien sûr.
Voilà.
D'accord. Puisque du coup, puisqu'on parle, pour revenir aussi aux questions de performance artistique, politique, tu m'as dit que le titre de la pièce, c'était René, la magnifique déesse.
Non, c'est pas le titre de la pièce.
C'est la façon dont elle t'a présenté.
Oui, c'est le nom de stage de scène.
Le nom
que j'ai, mon
d'accord.
Prénom de scène.
D'accord. Et en fait, donc, ce prénom de scène, donc déjà, il y a une façon de queerer la langue, comme tu m'as dit, puisque René, prénom sans E à la fin, enfin, et ensuite la magnifique déesse au féminin. Et en fait, tu as laissé un espace après le E de René, un espace
soutiré.
Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi tu l'as laissé? Et est-ce que, et après plus généralement, finalement, est-ce que performer son genre et le troubler, c'est aussi tout simplement troubler le genre grammatical? Donc là, on est aussi une question, on est des questions de langue vraiment, et de nomination, c'est-à-dire est-ce que on peut changer notre prénom, est-ce qu'on peut s'appeler au féminin, enfin, ou est-ce que dans la pièce tu peux t'appeler au féminin, tu t'appelles ou tu t'exprimes au féminin ou pas, ou les deux, est-ce que tu alternes, enfin, en gros, quelle réflexion sur la langue tu as aussi dans cette pièce et de manière générale dans ta pratique voilà.
Ce sont deux choses séparées.
Oui.
Dans la pièce, je parle autant que déesse. Donc, je suis un être divin qui n'est pas trop genré parce que je ne suis pas trop humain. Donc, j'évite un peu le genre humain.
D'accord.
Autant que déesse. Mais j'ai gardé mon prénom réel ou mon prénom personnel en ajoutant le soutiré. Pour montrer que c'est lié à moi-même en tant que personne privée. Et sur scène, je crois que je ne suis pas appelé en tant que personne genrée. Donc il n'y a pas de contexte quand on dit elle ou il, quand on parle de moi, parce que je crois que ça, c'est pas le cas dans le libretto, si on veut.
D'accord.
Donc on n'a pas posé cette question. Dans ma vie privée, si les gens qui font connaissance de moi, qui font ma connaissance, qui se présentent à moi, ont la gentillesse de me demander comment tu veux qu'on t'appelle, quel pronom est-ce que tu veux qu'on utilise pour t'appeler, je répondrai que je préférerais un changement entre les deux prénoms.
Donc, une alternance, en fait.
Oui, une alternance. Quand on dit il ou et elle en alternant ou dans une façon aléatoire. Je sais que c'est difficile et je dis que j'ai de la pitié avec des gens qui ne peuvent pas le faire dans une manière stricte, mais c'est ce que j'aimerais.
D'accord.
Pour déstabiliser mon genre autant que reperformance dans les bouches des autres, tu vois?
Bien sûr, et peut-être obliger aussi à... Enfin, obliger, forcer un peu les habitudes de binarité genrée dans la langue et se dire que... Enfin, essayer de à forcer une souplesse, arriver à changer de pronom aussi, enfin, de genre plus facilement sans avoir cette frontière si solide, etc. Oui.
Voilà, je crois que c'est très très difficile de, si tu perçois quelqu'un comme genré de masculin, de l'appeler comme il, comme elle. Donc, c'est très difficile de te forcer de le faire. Et je crois que ce processus est aussi une auto-éducation, une auto-formation, parce qu'il y a des gens qui tu perçois d'être masculin, mais qui se revendiquent féminin. Et si tu veux être poli avec eux et elles, il faudrait mieux que tu les appelais en utilisant le pronom féminin. Donc, il y a des gens dans le monde qui sont des transsexuels ou qui sont des transgenres qui demandent à leur environnement d'utiliser un prénom autre que instinctif. Et... si je participe à cette pratique de forcer ou de demander à mon environnement de alterner, je le rends un peu plus facilement vivable dans une pratique quotidienne de d'éviter des non pas éviter de s'habituer à ne pas suivre ses propres intuitions
oui.
linguistiques
oui.
Donc c'est il faut je force les autres de travailler leurs habitudes et leurs perceptions. Donc, et ça, c'est un processus de conscientisation. Et je crois que cette conscientisation est quelque chose de désirable politiquement. Parce que si nous voulons un monde où chacun et chacune puisse exprimer leur propre genre, il faut battre nos propres habitudes et oui. nos propres processus de perception, de classification du genre.
Oui. D'accord. Et du coup, est-ce que toi-même, vis-à-vis des autres, tu joues là-dessus aussi? C'est-à-dire que tu peux masculiniser quelqu'un qui a pas l'air a priori masculin, enfin tu vois ce que je veux dire? Ou est-ce que tu le fais juste parce que en fonction de la personne qui est en face de toi et que si tu penses que la personne est trans par exemple tu vas réfléchir un peu plus avant enfin comment dire comment toi du coup tu appréhendes ces choses là en termes de genre grammatical ou genre
c'est une question très difficile
ouais.
Pour chacun comment le faire dans la vie quotidienne J'essaie de ne pas forcer un pronom autre que le pronom désiré par les gens. Donc il faut trouver une réponse à la question, quel pronom est-ce que tu veux qu'on utilise pour toi? Et si je n'ose pas poser cette question, c'est difficile et il faut que je trouve des moyens d'éviter d'utiliser les prénoms jusqu'au moment où je réalise où je trouve les prénoms que cette personne veut pour soi. Mais je n'appelle personne avec un pronom autre que le pronom revendiqué. Donc, je ne le fais pas pour les autres. Je trouve ça très mal poli.
Oui, d'accord. Est-ce que comment dire, est-ce que certaines théoriciennes féministes, théoriciens et théoriciennes féministes, militants, militantes féministes, t'ont particulièrement inspiré? Enfin, est-ce que ça a construit ton rapport, enfin, ton engagement politique, ou est-ce que ça a été après que tu as découvert?
Autant que en militant politique dans le milieu des étudiants, que j'étais pour plusieurs années, j'ai trouvé que la question de genre n'était pas assez traitée et qu'il y avait des inégalités entre les deux sexes. Par exemple, par rapport au partage de pouvoir. Donc, il y a plus de parlementaires masculins dans le parlement des étudiants de ma fac que des parlementaires féminins. Et dans les milieux où j'étais, c'était une question importante, mais un peu marginalisée. Mais ça a inspiré mon intérêt aussi de m'approprier un corpus théorique là-dessus. Et je savais que Judith Butler était un peu la figure la plus politisée et la plus médiatisée des questions de genre. Donc j'ai essayé de comprendre Judith Butler. Donc c'était le point de départ. Et j'ai lu ou j'ai écouté à beaucoup des versions vulgarisées de sa théorie. Parce que j'ai essayé de lire son premier livre, Trouble dans le genre, qui est apparu en 1990 aux États-Unis, et je ne l'ai pas compris.
Il a été traduit en allemand quelle année, tu sais, ou en
Un année
Allemagne,
après.
en Allemagne. Un an après,
Oui.
d'accord. Que en France,
2005.
2005.
Je sais. J'en ai conscience. Et donc, elle était vitement reçue et discutée dans les études allemandes concernant le genre et le féminisme. Et donc, il existe beaucoup de versions vulgarisées, plus accessibles à sa théorie en allemand. Et donc, c'était le point de départ. Et je crois que c'est plutôt l'approche constructionniste au genre, que le genre est une construction sociale. Et moi, j'étais constructionniste beaucoup avant que j'aie découvert les questions de genre, parce
Ouais.
que c'était mon approche scientifique à la psychologie et à la philosophie. Et donc c'était très facile d'apprendre les questions à travers le constructionnisme. Mais en fait, je ne me trouve pas, je ne pense pas que je suis un expert pour la théorie queer ou la théorie de Judith Butler. C'est juste les versions vulgarisées, plus accessibles que m'ont aidé à traiter ces questions-là ou à
D'accord.
comprendre les questions.
Et du coup, j'en profite pour te poser, enfin, élargir aux questions nationales, entre guillemets, de féminisme national, si tant est qu'on puisse parler de. Enfin, et trouver une unité à ça, je pense que c'est pas forcément très facile à faire et je sais pas si c'est très pertinent, mais on peut essayer. Est-ce que en Allemagne, il y a en fait en France, je pense. c'est bon, je parle en mon nom bien sûr, mais disons qu'il y a quand même une forte encore présence de ce qu'on pourrait appeler un féminisme différentialiste, un féminisme essentialiste, un féminisme selon les termes, voilà, qui est représenté par certaines figures. Encore aujourd'hui, Geneviève Fraisse ou il y a eu Françoise Héritier en anthropologue. Enfin, elle est toujours là, mais... et donc, selon ce féminisme, très général, les grosses lignes, il y a une différence irréductible entre ce qui est donc l'homme et la femme, cette différence des sexes, qui est une différence soi-disant neutre, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de valeur intrinsèque, et qu'ensuite, la société vient... elle-même fournir des valeurs, mais que bon, ces valeurs sont ancrées à partir du corps, c'est-à-dire qu'elles sont quand même, elles ont leurs racines dans le corps. Bon, voilà, ça c'est le différentialisme. Enfin, c'est très très expliqué généralement. Et est-ce qu'en Allemagne, ces théories sont présentes? Parce qu'en France, il y a vraiment ce conflit, je trouve, j'ai l'impression qu'il y a quand même ce conflit entre différentialistes. Et de l'autre part, les matérialistes, les féministes matérialistes et la pensée queer, qui sont pas un même bloc, mais qui quand même s'opposent, se confrontent, et il y a un débat interne au champ féministe en France, que ce soit dans la recherche ou même vraiment dans le cadre militant, quoi. Est-ce que ce débat-là est présent en Allemagne?
Donc, je suis venu en France pour faire des études de genre, mais je n'ai pas fait des études de genre en Allemagne. Donc,
d'accord.
Mes études en Allemagne sont des études de la psychologie. Et le féminisme n'est pas du tout présent dans les études de psychologie américanisées allemandes. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai lu les médias. Et j'ai fait de la recherche. Et vite fait, je suis tombé sur des sources anglaises. Et je crois que c'est une différence majeure entre l'espace académique allemand et l'espace académique français, que les scientifiques et les académiques allemands maîtrisent bien l'anglais et lisent des sources anglaises en original et aussi sur internet. Et donc je dirais que on est très fortement influencé par l'espace académique ou l'espace de la pensée anglophone, et on est très proche de cette pensée. Et je ne peux pas différencier entre une culture proprement allemande de féminisme et de pensée sur le genre et les pensées anglophones, parce que je n'ai pas fait des propres études là-dessus, donc je n'ai pas une formation académique allemande, mais je peux constater qu'on est très proche des espaces anglophones. On a bien et vitement reçu les travaux de Judith Butler, c'était rapidement traduit aussi, et donc c'était intensivement discuté et est encore très discuté. Je crois que c'est plus connu en Allemagne que en France. Je sais qu'il y a des courants féministes différentialistes en Allemagne aussi. Je ne sais pas si ces courants sont forts ou pas, sont dominants. D'accord. Ou pas. Mais j'ai l'impression que dans ma génération, des militants académiques, étudiants gauchistes allemands, la pensée queer est la pensée dominante.
D'accord.
Donc, je crois qu'il y a aussi un peu une confusion entre féminisme et queer, pensée queer. Pour moi, au début, c'était la même chose. Et maintenant, je vois qu'il y a des différentes racines et des différences graves entre les deux courants ou les pensées, mais je crois que la pensée queer pourrait être aussi appelée une pensée féministe.
Oui.
Mais ça ne veut pas dire que le féminisme est seulement la pensée queer.
Je ne demande pas de me faire un cours sur la pensée queer, mais qu'est-ce qui différencierait la pensée queer du féminisme et qu'est-ce qui les rassemblerait?
Je crois que les deux devraient, théoriquement, devraient avoir une analyse de différence de pouvoir dans le monde selon différentes catégories comme le genre, mais aussi comme la race ou la classe. Et donc, je posais comme exigence théorique que ces deux courants devraient penser ça. Et je crois que pas mal des penseurs et théoriciennes font ça. Des deux courants. Donc il y a une critique de la structuration du monde selon des catégories et le féminisme est plutôt une critique centrée sur les différences entre les sexes ou les différences de pouvoir entre les genres. Et la pensée queer est aussi un moyen, je trouve, de battre contre ces différences en abolissant le genre.
Donc, en fait, la pensée queer aurait cette spécificité sa réflexion s'axe sur vraiment les catégories, une critique des catégories, aussi bien de genre. Enfin, de genre en fait d'abord, de la catégorisation binaire des genres, tandis que le féminisme peut intégrer aussi en fait finalement cette pensée là, mais se fonde aussi sur des questions de domination et oppression. Ah bon, la pensée queer aussi, en fait, là, on a un peu fait, je pense, voyager les deux entre eux, mais... Mais moi, personnellement, je pense pas qu'on puisse... Enfin, mon opinion là-dessus, c'est que... je pense que le féminisme est un mot... parapluie, je crois que c'est toi qui avais...
Un terme parapluie,
c'est un grand, grand bac où on peut mettre énormément de choses, et des choses que je vais trouver des plus détestables... aux choses les plus belles et souhaitables. Et notamment, la pensée queer peut tout à fait être, selon moi...
Je crois une grande différence entre les deux courants et, et la figure emblématique. La figure emblématique est la femme du féminisme et la femme. La figure emblématique du féminisme est la femme, et la figure emblématique de la pensée queer est la personne trans.
Ouais.
Le transsexuel, la transsexuelle. MTF, donc une femme transsexuelle issue d'une histoire masculine. Et ces deux figures emblématiques structurent un peu la pensée. Et j'ai lu beaucoup de critiques envers Judith Butler par rapport à cette utilisation de cette figure emblématique qui était formulée par des personnes trans.
Donc, c'est la question de la spoliation d'une parole ou d'une identité ou le fait qu'elle soit cisgenre, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas trans elle-même.
Non,
pas là-dessus.
Non, le fait qu'elle utilise la figure trans pour exprimer ses propres pensées queer et pas pour avancer les intérêts politiques des trans.
En fait, pour éclairer la norme et non pas pour...
Non, pas pour lutter pour les questions trans.
D'accord.
Mais il faut que nous nous arrêtons.
Ouais. I'm going to a town that has already been burnt down. I'm going to a place that has already been
some folks who have already been let down. I'm so tired of America. I'm gonna make it up for all of the Sunday times. I'm gonna make it up for all of the nursery rhymes that never really seemed to want to tell the truth. I'm so tired of you, America, making my own. I'm going to attack.